Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette édition de Radio Linguistica qui s'appelle Le grand défi, les Chinois à la DGT, la Chine pour l'Europe. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons d'abord du Chinois à la DGT et c'est-à-dire quel type de textes sont traduits, quels outils sont utilisés et quelles sont les difficultés principales. Après, nous parlerons sur les aspects politiques et économiques de relations de l'Union européenne avec la Chine. D'abord, je souhaite la bienvenue à notre collègue Xing Xing Guy du département anglais. Bonjour, ou comme on dit en chinois, ni hao.
Bonjour, ni hao.
Merci d'être venu. Eh bien,
Avec
comment dit-on d'abord DGT en chinois?
Donc la DGT en chinois mandarin, c'est Fangyi Zongsi. Quand vous l'avez bien mis sur l'écran pour l'écrit et le pinyin.
Oui, d'abord, c'est donc l'écriture chinoise simplifiée. Bon, c'est toujours assez compliqué. Et puis, la transcription en latin, en l'écriture latine, pinyin. Eh bien, quel type de texte, quel sujet vous traduisez principalement?
Donc, nous recevons donc à la DGT, au département anglais, tout type de documents potentiellement venant de toute DG, des cabinets et la IEAS. Donc, actuellement, je travaille beaucoup sur l'environnement, donc des textes, des documents de la DGENF et aussi sur et aussi de la DG Climat sur bien sûr donc les questions les actions pour le climat sinon avant donc dans mes années agent temporaire je travaillais aussi sur les textes venant de DG Trade le commerce DG Com la concurrence et DG Mare, par exemple, donc sur tout ce qui est affaires maritimes et pêche.
Et racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu à la DGT et quelle a été votre carrière ici.
Donc, il y a 5 ans, 6 ans, j'ai reçu un mail donc, qui a été circulé par notre professeur à l'école donc l'école supérieure de traduction d'interprète de traducteur à Paris donc j'étais étudiante là-bas à l'époque et la professeure nous a demandé si s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ce poste donc proposé par la commission pour être traductrice, traducteur à la DGT. Donc, j'ai postulé et j'ai passé 2 tests. C'était un processus de sélection, 2 tests de traduction et un entretien. Et voilà. Donc, voilà. Bon, on m'a recruté il y a 5 ans et c'est comme ça que je suis ici.
Et vous êtes la seule à traduire du chinois ouvert?
En ce moment, oui. Avant, donc avant, on parle d'il y a 3 ans, 4 ans, on avait une équipe. Donc, il y avait une autre traductrice et ensuite un traducteur chinois en fait, on travaille en équipe pour traiter les textes du chinois, anglais, anglais-chinois. Mais oui, en ce moment, je suis seule. Parce que voilà.
Oh
Parce que
là
je
là, vous pouvez jamais aller en congé alors.
sais. Non, je pense que ma chef est clément avec moi, donc voilà, elle m'a déjà accordé des congés annuels, comme Noël et le Toussaint aussi.
Alors là, on n'aura pas de traduction en chinois ou du chinois si vous êtes tout à fait seul.
Je pense que ce serait bien si les demandes faites par les requesters soient déposées avant ou après mes congés. Comme ça, on pourrait traiter les demandes à temps. C'est bien sûr à voir avec d'autres DG, les autres DG.
Bon, ici, on voit la grande muraille, mais ça, c'est la muraille de la langue, la barrière de la langue. Eh bien, le chinois a la réputation d'être particulièrement difficile, surtout l'écriture. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a les outils digitaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, expliquer un petit peu quels outils digitaux aide à surmonter ces difficultés, surtout les difficultés liées à une écriture non alphabétique?
Donc, d'abord, je vais parler un peu des outils de traduction qu'on utilise à la DGT. C'est essentiellement le Traddles Studio qu'on utilise pour traduire tout type de documents, pas juste chinois. Mais pour le Input Methods, il faudrait connaître comment écrire le chinois sur l'écran, comment taper en chinois. Donc, pour moi, comme je connais le pinyin, j'utilise le Microsoft Pinyin comme input method. Et puis, bah, j'effectue mes recherches sur Internet avec ça. Et ensuite, il y a aussi le e-translation qui pourrait nous aider. Donc, sur le plan, sur le temps, en fait, c'est une sorte de machine translation. Mais j'avoue que pour le chinois, en ce moment, la qualité de machine translation n'est pas énormément. Enfin, ça pourrait aider pour la vitesse parce que les termes essentiels sont là, mais il faut vraiment avoir un traducteur, une traductrice, un humain, si vous voulez, pour enfin, traiter les textes correctement.
Parce qu'il n'y a pas encore assez de textes de paires, de couples anglais, chinois, par exemple. C'est lié à ça.
Énormément sur Internet, là c'est sûr, mais je pense que c'est juste parce que la syntaxe chinoise est assez différente et surtout par exemple sur les structures de relative clauses qui pourraient en fait, si c'est pas, enfin, si ces relative clauses ne sont pas traduites correctement, pourraient engendrer des malentendus par exemple. Donc vous avez évoqué des barrières linguistiques, je pense que. Oui, comme le chinois et l'anglais, par exemple, sont deux langues assez différentes sur le plan grammaire, syntaxique. Donc voilà, moi, j'ai toujours un travail comme traductrice en ce moment, oui, pas encore remplacé par la machine.
Oui, encore, juste pour ceux qui ne connaissent pas trop bien l'écriture chinoise. Alors, si vous tapez sur l'ordinateur, vous tapez toujours le latin, c'est-à-dire le pinyin. Et puis, la machine transforme ça en signe, en hiéroglyphe chinois. C'est ça?
Sur le caractère chinois, oui, effectivement, comme vous décrivez. Donc, par exemple, la DGT, Fang Yi Zong Si, on voit quatre caractères sur l'écran tout à l'heure. Donc, par exemple, le Fan, donc qui veut dire traduire, verser, si vous voulez. Donc, je tape Fan, ce qui est la prononciation de fan, le premier mot de ce terme. Donc, j'aurai une dizaine de propositions de différentes fans parce que n'oublions pas que le chinois est une langue tonale, c'est-à-dire, en fait, il va y avoir fan, 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 et dans ces fan, 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 il y en a beaucoup de mots qui correspondent à ces tons-là. Donc, je dois choisir sur une gamme de, enfin, une gamme de propositions de ce phonème et je choisis le bon fan pour commencer. Voilà. Donc, après, i, c'est la même chose. Fan i, donc si. Donc, voilà, je choisirai depuis cette base, si vous voulez, de caractère, le bon mot pour. pour la traduction, voilà, de tout texte chinois.
Et est-ce qu'il y a certaines difficultés plutôt culturelles auxquelles on fait face en traduisant du chinois vers une langue européenne?
Je pense que le facteur culturel est toujours très important. Il faut prendre en compte tout ce qui est éléments culturels, sociolinguistiques, dans toute traduction de toute langue. Et là, nos confrères et consoeurs interprètes pourraient nous dire la même chose, en fait. Je pense que pour le chinois, parfois, peut-être une certaine atténuation sur, enfin, le choix du mot est important parce qu'il y a tellement de synonymes, de différentes options pour exprimer une idée, un concept. Et si on ne choisit pas le bon mot dans le bon contexte, ça pourrait avoir un impact parfois assez important, en fait, surtout sur les documents politiques. Voilà.
Eh bien, justement, on passe à la politique. Ni hao ou bonjour, Xavier.
Guten, je sais pas moi.
Guten Tag.
Bonjour. Guten
Bon.
Abend, c'est déjà Abend.
Oui,
Guten
peut-être.
Morgen.
Oui. Eh bien, nous avons déjà parlé à notre radio sur la visite de Biden à Bruxelles. Quand il a été ici à Bruxelles, la Chine a été un peu, comme on dit en anglais, the elephant in the room, l'éléphant dans la salle. On en a parlé, certes, mais le message était plutôt qu'après les ravages causés par la politique de Trump, Biden voulait venir pour réparer les pots cassés. Mais peut-être le mobile plus fort derrière tout, la cause la plus profonde, étaient évidemment les tensions avec la Chine. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là et quels étaient sont les enjeux?
Alors, je n'ai jamais fait partie des analystes qui étaient très optimistes quant à un dégel complet des relations sino-américaines. J'avais d'ailleurs écrit dans la revue Recherche internationale qu'on était sur un continuum. Et j'en donne pour élément qui est à mon sens probant le fait suivant. L'ensemble des sanctions, ou plutôt, oui. Les barrières tarifaires au commerce sino-américain n'ont toujours pas été levées par l'administration Trump, par l'administration Biden. Donc, on est dans la prolongation de l'administration Trump. Et de plus en plus de compagnies chinoises sont placées sur liste noire aux États-Unis en raison spécialement des entreprises multinationales actives dans les nouvelles technologies en raison de leur lien avec le ministère chinois de la Défense. Donc, globalement, la relation ne se détend pas. Et effectivement, on peut comprendre la visite de Joe Biden sous un double angle d'un point de vue européen. Effectivement, avec nous, les relations sont plus positive que durant l'époque durant le mandat de Donald Trump. En même temps, on observe, et c'est une conséquence de ce dégel des relations euro-atlantiques, euro-américaines, c'est que les États-Unis cherchent à former un bloc politico-militaire pour contrer l'influence grandissante de la Chine. Et donc, il y a effectivement l'Europe occidentale et centrale, l'espace actuel de l'OTAN, mais on commence déjà à avoir des rapprochements réels et significatifs avec l'Australie, le Japon, dans le Pacifique, et vraisemblablement peut-être, mais ça c'est pas encore gagné, l'Inde. L'Inde qui jusqu'à présent, et surtout sous la présidence de Modi, poursuit une ligne clairement non alignée et nationaliste. Et donc là, c'est plus délicat, les Occidentaux du côté de Modi. Mais donc oui, les Américains ont bel et bien conscience de ce que la Chine exerce une influence économique, politique, militaire et culturelle grandissante. Et ils entendent contrer. Je me rappelle avoir cité dans cet article de Recherche internationale que je vous enverrai, qui fait 20 pages et qui est très long, Donc c'est absolument invendable pour le format qui est le suivant. La citation d'une des responsables d'analyse géopolitique de l'Institut de formation de l'US Air Force, qui en 2001, il y a 20 ans, disait que la question n'était pas de savoir si des tensions allaient éclater entre la Chine et les États-Unis. La Chine serait un jour un peer competitor, un pair avec lequel on peut entrer en compétition. La question était de savoir quand ces tensions allaient éclater. 20 ans plus tard, on en a la réponse. Mais donc, dans la tête des élites américaines, il a toujours été prévu qu'à un moment donné, il y aurait une opposition avec la Chine.
Bon, ça c'est la position des États-Unis, mais quelle est la place des Européens dans ce jeu-là?
Alors, je crois que les Européens, pour comprendre la position des Européens, il faut remonter à au moins. Il faut d'abord se rendre compte que du côté de l'Allemagne, qui est la puissance dominante en Europe aujourd'hui, le désir de commercer avec la Chine occupe une place grandissante dans le commerce extérieur des grands groupes automobiles allemands, le désir de commercer avec la Chine est toujours présent. Et donc on n'ira pas jusqu'à une position de blocage complet systématique. J'en veux d'ailleurs pour preuve qu'il y a 2 ou 3 ans, l'Union européenne a reconnu le caractère d'économie de marché de la Chine, ce qui est quand même conceptuellement assez osé. Je veux dire, on n'est pas du tout dans la même conception de l'économie, du marché, de la place du marché dans la société en Chine et en Europe, mais voilà. Donc il y a une volonté d'ouverture. D'autre part, la Chine n'est pas seulement un importateur de biens européens, c'est aussi un investisseur. La place de la Chine dans le nord de l'Italie ou dans certaines régions d'Espagne aujourd'hui est absolument incontestable. Et ces investissements chinois ont aidé ces régions qui ont été profondément en crise il y a une dizaine d'années à, passez-moi l'expression, sortir la tête hors de l'eau. Donc il n'y a pas de volonté de. Je ne crois pas que les Européens entreront spécialement en conflit avec les Chinois pour des raisons profondément économiques. En revanche, il se pourrait que pour des raisons politico-militaires, on soit davantage tenté par cette formule de bloc relativement à la question de la Russie. Ça, c'est là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Quoique là encore, je vois bien que de la rencontre entre les Européens et les États-Unis, eh bien, le gazoduc Nord Stream a reçu l'aval des États-Unis. Et c'était dans l'intérêt bien compris de la Russie et de l'Allemagne. Donc je crois que l'Europe se positionne, continuera à se positionner davantage en fonction de critères économiques et commerciaux. Finalement, mais c'est le libre commerce qui apporte la paix, hein. Les grands empires commercent rarement entre eux et se font la guerre. Les nations commerçantes sont pacifiques.
Et donc, parlons justement commerce. Bon, on entend, on dit souvent que les Occidentaux voudraient limiter un petit peu les excès de la mondialisation, dont profite surtout la Chine. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement?
Ah, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. On a souvent accusé la Chine d'avoir des positions agressives, par exemple dans le domaine textile, dans le secteur du textile. Et de là, s'est installée dans l'opinion publique européenne une équation qui est une illusion. Si on ferme le commerce avec la Chine, on va retrouver des emplois dans le secteur textile en Europe. C'est oublier que ces emplois dans le secteur textile européen, ils avaient déjà disparu à la fin des années 60, début des années 70 du siècle dernier, et à l'époque, c'était le Maroc, la Tunisie et la Turquie qui tiraient un grand profit de ces délocalisations. Donc je crois que cette idée que la Chine, en fait, l'idée qui est sous-jacente et il y a matière à débat, c'est que depuis son entrée dans l'OMC en 2001, la Chine est restée globalement assez protectionniste. Et c'est pour certains groupes européens, Bah, c'est toujours un peu délicat. Pénétrer le marché chinois, s'y développer, bah, c'est plus compliqué. Et vraisemblablement, ce que souhaiterait l'Europe, c'est à la fois une libéralisation du commerce avec la Chine, moins de protectionnisme, et davantage d'ouverture de son marché financier. Les réserves de change de la Chine, c'est 3 000 milliards de dollars. Évidemment, si des groupes européens pouvaient avoir davantage accès à ce capital, cette épargne qui deviendrait un capital pour nos investisseurs, ce serait une bonne chose. Alors, je crois que ce n'est pas tellement la ligne de l'opposition et du coup de poing sur la table qui va fonctionner avec les Chinois, c'est l'évolution que l'on a constatée pour le Japon, que l'on constate actuellement pour la Corée. Cette évolution, on va la constater pour, en ce qui concerne la Chine, et c'est déjà constatable. La Chine ne sera plus d'ici une vingtaine d'années un pays à bas salaire spécialisé sur des productions à faible valeur ajoutée. La Chine sera un grand pays industrialisé. En tout cas, avec un niveau de développement, un niveau de revenu par habitant qui sera équivalent à celui du Portugal, entre le Portugal et le Maroc, mais avec des régions entières qui auront le niveau de développement technique et industriel de grandes régions européennes. Je pense notamment à la région de Shanghai. Donc, la Chine, à ce moment-là, sera davantage tentée par bah, de l'ouverture commerciale. J'en veux pour preuve deux éléments. C'est que, à deux niveaux, bon, sur une production industrielle importante, la voiture électrique, les deux segments, le plus élevé et le plus faible, le plus bas, de la voiture électrique française, c'est la Dacia. J'ai oublié le nom, Spring. Et le tout haut de gamme, c'est la DS9. Ces deux voitures sont fabriquées en Chine parce que la Chine dispose d'un leadership mondial en matière de fabrication de batteries de voitures électriques. Ça nous donne déjà une idée du niveau de développement de la Chine dans les années qui viennent. Ce sera un pays qui sera forcément plus libre-échangiste parce qu'il aura franchi un certain nombre d'étapes dans son développement industriel. Il n'y a pas une seule nation industrielle qui, dans son histoire de long terme, n'est pas passée d'abord par un protectionnisme éducatif qui permettait de développer les capacités industrielles. Ce protectionnisme éducatif a d'ailleurs été théorisé par un économiste allemand. Donc voilà, donc je devrais retrouver le nom, Lindt, je crois. La Chine va franchir ces étapes, elle est en train de les franchir. Je veux dire, la DS9, c'est le véhicule, le modèle qui doit favoriser la concurrence entre la France et l'Allemagne sur le véhicule haut de gamme. Et donc ce véhicule est officiellement français, parce que DS est une marque française, mais c'est un véhicule fabriqué en Chine. On voit déjà que, si vous voulez, les enchaînements vers des stades de développement qui sont ceux de l'industrialisation avancée sont déjà présents en Chine. Je suis wallon, je vis dans une toute petite région du monde. C'est à peine. Mais Alibaba qui s'installe à Liège, tout le monde en parle, mais c'est absolument fabuleux pour l'économie wallonne. 3 millions de producteurs, c'est-à-dire rien à l'échelle de la Chine. La classe moyenne chinoise, c'est environ 280 millions d'individus. Pour des PME de l'agroalimentaire bénéficier du hub mondial Alibaba à Liège, pour des PME agro-exportatrices wallonnes, c'est une opportunité fabuleuse. Je veux bien devenir demain dans la division internationale du travail le fabricant pour 280 millions de Chinois de produits agro-industriels un peu folkloriques. Il n'y aurait pas de souci du côté de l'emploi en Wallonie. Donc cette présence-là de la Chine, elle est là et rien ne viendra faire marche arrière. Alors pour les États-Unis, c'est un problème de valeur. Les Chinois n'ont pas leur valeur. Bien. Mais. Et oui, je vous laisse faire l'enchaînement. Mais ce problème de valeur n'est peut-être pas le problème du monde entier. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont contents de faire du commerce avec la Chine et qui, contrairement aux États-Unis, envisage des relations internationales sous l'angle de nous reconnaissons les gouvernements, pas les régimes. Voilà, tout. Voilà, je crois que c'est une posture qui a été celle de la France pendant de nombreuses années. Je crois que c'est peut-être une voie d'avenir. Toutes les puissances émergentes n'ont pas un passé politique ancré dans le libéralisme philosophique. Il faut savoir relativiser la portée de nos valeurs.
Oui, revenons un petit peu à la position des États-Unis, parce que après la rencontre à Bruxelles, Biden est allé à Genève pour voir le président Poutine. Vous avez déjà parlé un petit peu à ce sujet-là. Alors, est-ce que c'était aussi à cause des Chinois qu'il a parlé avec Poutine?
Oui, il y a clairement une volonté de la part des États-Unis de constituer une espèce d'empêcher un rapprochement systémique trop important entre Pékin et Moscou. Alors l'idée est la suivante, c'est que une Russie trop isolée se rapprocherait définitivement de Pékin. En revanche, si la Russie est trop forte, elle fait peur à nos partenaires d'Europe centrale. Bien. Et globalement, on observe que, de toute manière, le rapprochement entre la Chine et la Russie est très important. Le yuan, par exemple, dans les réserves de change internationales, yuan renminbi, si je prononce mal, on peut me corriger, il n'y a pas de souci. Mais représente à peine 2% des réserves internationales. Dans le cas des réserves de la Chine, de la Russie, pardon, dont le commerce avec la Chine s'est fortement développé, c'est 10% des réserves. Et la Russie, qui a été victime de sanctions qui sont ce qu'elles sont, on peut les juger utiles ou pas, globalement, elle opère plutôt pour l'instant une dédollarisation de ses actifs au profit de l'euro d'un côté et du yuan de l'autre. Et en termes militaires, la Chine et la Russie coopèrent déjà sur le plan militaire. Ce qui signifie qu'il y a parfois des exercices conjoints entre les armées russes et chinoises sur un théâtre euro-atlantique, c'est-à-dire à l'ouest de l'Oural. Nous y sommes déjà. Donc je crois vraiment que la tentative de Biden, elle n'aura pas énormément d'effet, elle peut ralentir certaines évolutions, mais elle ne va pas les contrecarrer et les empêcher.
Eh bien, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Évidemment, on n'a pas pu parler de beaucoup parce que les sujets concernent les questions liées à ce sujet sont il y a une multitude énorme. Mais on a essayé de donner juste un aperçu. Eh bien, merci beaucoup à vous,
Merci.
Xing Xing, Xie Xie, comme on dit en chinois, et à Xavier.
Merci beaucoup. Au
Merci.
revoir.
Au revoir.